Oh les beaux jours, le podcast des frictions littéraires. Le cœur ne cède pas. Dernière parution de Grégoire Bouillet, Le cœur ne cède pas est une enquête littéraire impressionnante, publiée dans un livre de plus de 900 pages, accompagnée par un site internet qui rend accessibles toutes les pièces à conviction. Ce site, dont Grégoire Bouillet nous fait la visite, sert de fil conducteur à cette rencontre. Vous pouvez y accéder à l'adresse lecoeurnecedepas.fr. Entretien avec l'écrivain Grégoire Bouillet, animé par Olivier Gesbert, et enregistré en public en mai 2023 au Théâtre de la Criée à Marseille lors de la 7e édition du festival Oh les beaux jours.
C'est l'histoire de Marcel Pichon, qui est une ancienne mannequin dans les années 40-50. Elle l'a été pour Jacques Fatt. Elle a vécu dans une extrême solitude et elle va décider en 1984 de se laisser mourir de faim tout en tenant pendant 45 jours le journal de son agonie. Elle est morte seule, mais ça ne s'arrête pas là parce que son corps va être découvert plus de 10 mois après sa mort. Ce qui est très long, on peut l'imaginer, ce qui veut dire peut-être aussi quelque chose de la solitude dans laquelle elle a vécu. Le cœur ne cède pas, c'est un roman, mais c'est aussi un site internet dédié que vous avez fabriqué, Grégoire Bouillet, avec toute la matière que vous avez amassée durant ces trois années. Un an et demi d'enquête, un an et demi d'écriture, en gros, pour ce livre, Le cœur ne cède pas, qui est un roman tel que vous avez choisi de le catégoriser. C'est une enquête, c'est un grand livre de 900 pages, 99 chapitres, qui nous parle aussi, bien sûr, un tout petit peu quand même de vous, et même peut-être beaucoup de vous, à travers cette enquête que vous avez réalisée. On vous dit un bonjour très officiel. Bonjour Grégoire Bouillet.
Bonjour Olivia, j'espère.
Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il va falloir que vous nous éclairiez sur une petite chose. C'est votre passion pour les anagrammes, mais surtout pour les onomatopées. Ça vous vient d'où ?
Je ne sais pas. Peut-être de la BD. Parce que ça crée quelque chose sur la page, parce que les onomatopées, c'est-à-dire, c'est quand même, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de questions. Hein. Enfin, je dois dire que là, je tombe des nues bien joué. Hein. Vous êtes sur le canapé, mais... tout ça, oui, mais parce qu'en fait, on peut mettre plein d'informulés dans une onomatopée. J'ai essayé d'être intelligent, je ne vais pas faire beaucoup plus.
Là. Est-ce que vous écrivez comme vous parlez ?
J'aimerais parler comme j'écris. Ce serait plus, j'aurais l'air plus intelligent que je ne suis, je pense. Je travaille beaucoup la langue, mes textes. Je suis un peu obsessionnel. Moi, j'avance paragraphe par paragraphe. Donc, chaque paragraphe a une idée, une situation, quelque chose à dire. Et je peux passer, 10 jours, 15 jours sur un paragraphe tant qu'il n'a pas craché ce qu'il avait à dire vraiment et que toutes les composantes de l'écriture soient réunies, à savoir, un, le sens, deux, la fluidité, la musicalité, trois, la compréhension par un lecteur éventuel, et quatre, le petit mystère qui fait que, à la fin du paragraphe, je suis content quand je me mets à sourire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive et ça me réjouit d'avoir réussi à écrire ça.
Il y a eu, on le disait, le rapport sur moi, il y a eu le dossier M, et maintenant il y a l'affaire, cette affaire Marcel Pichon. Est-ce que vous diriez que c'est votre troisième enquête ? Est-ce qu'il aurait pu s'appeler l'affaire Marcel Pichon ? Après le rapport, après le dossier, est-ce qu'on a l'affaire ?
Oui. Mais en fait, le titre, comme vous le savez, il s'est imposé à moi parce que c'est l'une des phrases du journal d'agonie de Marcel. Moi, je m'étais jamais occupé de faits divers. Je trouve que écrire, c'est aussi une façon d'élucider, alors que ce soit soi, que ce soit le monde, que ce soit énormément de choses. Il y a cette tension-là dans l'écriture, et en tous les cas, voilà. Alors, je sais pas. Je pense que je me suis toujours un petit peu méfié du côté très littéraire, avec un grand L, la littérature avec un grand L. Ça m'a toujours un peu... À la fois, évidemment, et d'un autre côté, la posture littéraire m'a toujours un peu embêté. D'où peut-être les onomatopées aussi, pour casser justement le côté sérieux de la littérature. Si on est profond, on est grave. D'où les exergues, par exemple, qui vont aussi bien de Wittgenstein à Flaubert, mais au Club de Cinq et à Oui, la voiture jaune. Parce que c'est tout ça, la culture aussi. C'est-à-dire, voilà, en fait, les écrivains, je digresse, hein, mais on s'en fiche. Les écrivains, quand tous les livres, il y a des exergues. Et généralement, l'écrivain, il se la pète un peu quand même. C'est-à-dire, il fait une exergue qui est vraiment profonde avec un auteur vraiment important et tout ça. Moi, j'adore, et moi, je fais ça aussi. C'est-à-dire que j'adore les phrases profondes de grands auteurs sur des grands livres. Quoi. Voilà. Mais il n'y a pas que ça dans ma culture. Il y a aussi, par exemple, Oui, la voiture jaune. Où je me souviens d'une exergue, c'était juste Ian, les mémoires d'un âne, la comtesse de Ségur. Enfin, voilà. Voilà. Et moi, quand je fais ça, je ris tout seul. Et je me dis, il y a des chances quand même pour que le lecteur qui vient de passer d'une belle phrase de Wittgenstein, genre « Les limites de mon monde sont les limites de mon langage », qui est une phrase fondamentale pour moi, par ailleurs, hein, et puis pour la littérature aussi, à le chapitre suivant, c'est « Ian ». Voilà, et c'est, pour moi, c'est créer ça.
Alors, en exergue, hein, pas les exergues en tête de chapitre.
Si, aussi.
Non, mais là, les exergues du roman, mm-hmm. Il y a deux phrases. « Une cage allait à la recherche d'un oiseau », Franz Kafka.
Juste magnifique. Juste une, voilà. Et qui correspond absolument... l'aventure de la trajectoire de Marcel Pichon.
Et là, mais pour la deuxième, il va falloir peut-être glisser sur le divan. De l'autre, nous ne savons rien et nous ne pouvons rien savoir. Et pourtant, nous savons tout de lui. Nous en savons autant que sur nous-mêmes. C'est-à-dire rien.
Tout le monde a... On l'a refait
Giacomo
ou pas ?
Leopardi.
Non, bon. Alors, elle est signée Giacomo Leopardi. Alors, c'est là... Bon. Alors, bon... Elle n'est pas de Giacomo Leopardi. Elle est totalement inventée. C'est une phrase de moi que j'ai trouvée vachement bien. Vous êtes les seuls à qui je l'avoue. Vous avez été à la fin de la tournée. Donc, en fait, et je l'ai extraite. J'ai fait croire qu'elle est tirée du Zilbaldon parce que le Zilbaldon fait 1200 pages. Et j'étais convaincu que personne n'irait rechercher la citation du Zilbaldon. Donc, c'est une phrase. En fait, elle était dans le livre, mais je la trouvais tellement pertinente que je me suis dit, c'est ça qui doit apparaître au début. Et on est là pour s'amuser aussi, quoi, pour jouer avec tous les codes. Enfin, voilà. C'est pas juste gratuit, c'est jouer avec les codes.
Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe là derrière nous ?
Alors,
ça, c'est votre univers mental au moment où vous écrivez ce roman. On peut dire ça, non ?
En fait, dans les enquêtes policières, hein, tout le monde a vu ça à la télé, il y a toujours le mur d'images. On affiche les indices, les suspects, et tout ça. Bon, en fait, c'est vraiment un truc de fiction, parce que jamais dans un commissariat de police, vous ne verrez un mur d'images. Enfin, évidemment, non. Les mecs sont pas assez débiles pour afficher au-dessus de tout le monde les suspects qu'on a, et tout ça. N'importe qui passant dans le couloir dira « Ah, c'est lui le suspect, ok ». Évidemment, non. Donc, c'est vraiment un truc, mais parce que c'est très graphique, c'est très beau. Et en fait, je ne l'ai pas concocté durant l'écriture. C'est quelque chose que j'ai fait une fois que je savais, et j'ai su très vite que je ferais un site internet regroupant tous les documents concernant l'enquête sur Marcel Pichon. Et donc, je l'ai composé après comme un tableau. Alors, je ne sais pas si. Alors, en fait, c'est très embêtant de le montrer avant d'avoir lu. Évidemment, c'est quelque chose il faut aller sur le site après avoir lu le livre. Mais on est à Marseille, hein, on s'en fiche. Je ne sais pas, Nicolas, tu peux appuyer sur n'importe quelle pastille pour qu'on comprenne le...
D'accord, mais
non, non, pas celle-là, pas celle-là. Non !
Nicolas !
Je ne sais pas,
Voilà. Alors ça, vous l'aviez donc dans la tête avant, et à la fin, vous l'avez, parce que ça fait joli, vous l'avez mis à plat. Et que ça raconte aussi comment vous avez été torturé.
Tous les documents que il y a les extraits date de naissance, C'est pas juste un jeu, c'est aussi dans un lien avec la vérité. C'est-à-dire que, là on va rentrer un petit peu dans le dur, ça va pas durer longtemps, mais quand même un peu. Moi j'ai un rapport assez fort à la vérité. Pour moi c'est important la vérité. Alors, je sais bien que, notamment en littérature, les romanciers peuvent dire « Non, mais la vérité, ça n'existe pas, elle est relative, chacun la sienne et tout ça. » Donc, la vérité est inaccessible et ça n'existe pas. Alors, moi, je veux bien qu'on dise ça, mais seulement quand on a beaucoup, 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 beaucoup cherché la vérité. Et à la fin, on peut dire qu'effectivement, On ne l'a pas trouvé. Mais
c'est quoi la vérité? Et notamment sur cette affaire, on va y revenir, mais quelle est la
J'aimerais
vérité
juste
que vous
terminer
avez
traquée. Ma phrase, si ça vous
J'étais en train d'essayer de vous aider à la terminer.
Non, je savais très très bien où j'allais.
C'est vrai?
Ah oui, tout à fait.
On dirait pas.
Donc, excusez-moi, Olivia.
Je vous en prie, faites comme chez vous.
Mais en revanche, si on commence à dire que d'emblée à poser comme postulat de départ que la vérité n'existe pas, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à l'impunité du mensonge. Parce que si la vérité n'existe pas, à ce moment-là, youpi, tout est permis. Donc moi, non, ça ne peut pas être ça. Il faut aller chercher la vérité. Donc maintenant, je suis prêt à entendre votre deuxième question, mais vraiment, j'avais une ratiche.
On n'a rien compris, par contre, à ce que vous venez de dire.
Vous n'avez pas compris? Faites confiance.
Pourquoi vous êtes de son côté, en fait?
C'est sympa, merci.
Je viens de me prendre un uppercut et vous êtes encore de son côté. Si on commençait par le début de ce livre, par le prologue, par le début de cette histoire aussi, par ce courrier que vous recevez un jour, est-ce que vous nous le lisez? Est-ce
oui.
que vous nous le...
Non, mais bien sûr.
Et ça commence par Monsieur Bouillet.
Ouais. Si vous le permettez, je vais juste contextualiser. Ça fait un an et demi que j'enquête sur Marcel Pichon. Donc, je vais faire très vite, hein, mais donc en 85, j'entends une émission de radio dans laquelle j'apprends qu'une femme, ancienne mannequin, s'est laissée mourir de faim dans son appartement en écrivant le journal de son agonie et on a découvert son cadavre 10 mois plus tard. Et à l'antenne, un extrait du journal d'agonie était lu. Et il y avait une phrase qui disait mardi, 28e jour de jeûne, la langue comme un escargot.
La langue, c'est un escargot qui dégorge dans du sel.
Oui, mais alors la mémoire, elle
C'était
est toujours...
C'était pas ça ouais.
Si. Mais moi, tel que je me suis, pendant 30 ans, rappelé cette phrase, c'était « la langue comme un escargot ». Et voilà, cette phrase me reste et pendant 30 ans, à tel point que quelqu'un m'a fait remarquer que dans tous mes livres, il y a cette phrase. C'est très rigolo, depuis dans le rapport sur moi à Lillet, dans l'invité mystère, dans le deuxième évidemment. Et voilà, en fait, ça fait 30 ans que cette phrase, je l'ai en mémoire et tout ça. Et bon, je trouve, rencontre un type de Lina qui retrouve l'émission de radio. Donc j'apprends qu'elle s'appelait Marcel Pichon, qu'elle s'est laissée mourir de faim au 183 rue Championnet, à Paris 18e, qu'elle était mannequin chez Jacques Fatt et tout ça. Mais vraiment dans l'heure qui suit, la machine s'est enclenchée. C'est-à-dire que là, j'ai été pris, quoi. Enfin, j'avais rien à faire. Et là, une heure plus tard, j'avais tout à faire, quoi. Avec deux questions qui étaient, qui était cette femme? C'est-à-dire, qui se suicide en y mettant tant fou? Alors, moi, ma mère, elle se jetait par la fenêtre et ça ne mettait pas 45 jours à déballer les 5 étages. C'était comme ça. Donc, c'est quelque chose de très, très particulier que de se tuer en y mettant 45 jours. Enfin, voilà. Et la deuxième question, c'était qui se tue à petit feu le raconte en direct par écrit. Voilà. Et je trouvais que le journal d'agonie avait... bref. Donc j'enquête, et évidemment, la première chose, la généalogie, etc. Et je mets un an et demi à retrouver les petits-enfants, et notamment la petite-fille de Marcel Pichon, parce que l'idée, c'était... Si quelqu'un possède encore le journal, est-ce qu'il avait été détruit en 85? Est-ce que c'était la police qui l'avait? Est-ce que c'était la famille? Le seul espoir, c'était évidemment de retrouver les membres de la famille. Et donc, je rencontre la petite fille de Marcel Pichon, je prends un café avec elle. Alors évidemment, elle était un peu sur la réserve, ce que je comprends tout à fait. J'imagine que si un écrivain arrivait la gueule enfarinée pour me dire tiens, je suis en train d'enquêter sur votre mère qui se jetait par la fenêtre... Je ne sais pas comment je le prendrais. Bon, j'espère bien, parce qu'en fait, ça dépendra du livre et des intentions du bonhomme. Mais voilà. Et 3 jours, donc ça se passe plutôt bien. Elle me donne quand même 2-3 infos sur sa grand-mère. Et 3 jours plus tard, je reçois ce mail. Monsieur Bouillet, avoir accepté de vous rencontrer était une erreur. Quelques jours ont passé depuis notre rencontre et je vous informe que je m'oppose fermement à votre projet de livre sur ma grand-mère. Vous m'avez fait part de votre inexplicable passion pour l'histoire de ma grand-mère, cela vous regarde. Moi, ce que je ne m'explique pas, c'est votre insistance et les recherches extrêmement intrusives que vous avez menées sur ma grand-mère dans l'optique de votre livre. Je les trouve déplacées et choquantes. Je vous dis donc mon refus le plus ferme à ce que vous écriviez un livre concernant ma grand-mère ou qui impliquerait n'importe quel autre membre de ma famille. Je suis certaine que vous respecterez ma décision. Je ne doute pas que vous trouverez ailleurs matière à exercer vos talents littéraires et à investir vos inexplicables passions avec mes salutations. Voilà. Et moi, je reçois ce mail et j'avais pas encore écrit une ligne. Ça faisait un an et demi que j'enquêtais et j'ai su immédiatement que c'était le début du livre. Aucune raison de planquer ça. Au contraire, ça posait tous les enjeux. tous les enjeux de ce livre-là en particulier, mais peut-être même de la littérature en général, c'est-à-dire des enjeux narratifs, littéraires, éthiques, juridiques. Et là, c'était, voilà, tout était là, posé, parce que, bien évidemment, alors, c'est deuxième point, truc un peu dur, quoi, je veux dire. Et évidemment, le sujet d'un livre, alors tout le monde va vous dire, ouais, ça raconte un fait divers sur une femme et tout ça. On fait un peu la gueule, quoi, quand on, ça donne pas très envie. Bon, ok, c'est ok. Voilà. Mais c'est oublier que le véritable sujet d'un livre, c'est la littérature. C'est pas ce qu'il raconte, c'est pas l'histoire qui est racontée. Mon livre est, par exemple, extrêmement joyeux sur une matière qui est assez atroce et assez sinistre, la mort de cette femme. Donc, on oublie toujours de parler de littérature parce qu'on va se concentrer sur le contenu du livre. Or, moi, je tiens beaucoup à dire que, en fait, le véritable sujet, et même quand l'auteur ne le sait pas ou qu'il l'ignore, ou que, enfin, voilà, le véritable sujet, c'est toujours la littérature, ses pouvoirs, ses limites. Qu'est-ce que ça a à faire avec la réalité? Où est-ce que ça joue? Où est-ce que ça se rencontre? Où est-ce que ça se falsifie aussi?
C'est un peu comme vous, du coup, le côté extrêmement joyeux, mais avec un noyau, une part de tragique. Est-ce que vos livres vous ressemblent?
Oui, j'espère, en tous les cas. Je pense que mes livres d'aujourd'hui me ressemblent beaucoup plus que... en 2002... En 2002, rapport sur moi, je pense que je ressemblais au type qui a écrit ce livre. Et qu'aujourd'hui, je ressemble au type qui a écrit le dossier M et l'invité. Le cœur ne cède pas.
Alors, la petite fille de Marcel Pichon veut donc que vous n'écriviez pas ce livre. Et malgré tout, vous décidez de passer l'obstacle, de contourner l'interdit, d'écrire ce livre sur sa grand-mère, d'aller chercher, fouiller dans le passé, enquêter. Et pour ce faire, vous allez embaucher un inspecteur qui va vous prêter main forte, une sorte de détective privé pour enquêter avec vous. L'inspecteur Bibor avec son assistante, Penny. Lui, c'est un peu votre double. Elle peut-être aussi, d'ailleurs. Les deux
Oui. Alors, j'avais donc cet interdit et je tiens à préciser que je ne l'ai pas pris à la légère, l'interdit. Pas seulement pour des raisons juridiques, pour des raisons purement éthiques. Quelqu'un s'oppose, et c'est un vrai problème. Je ne fais pas partie des écrivains qui pensent que liberté d'expression avant tout et fuck le reste. Moi, c'est pas ce que je pense. Je pense qu'il y a une part maudite de la littérature, notamment quand elle s'occupe de la réalité, de choses qui ont vraiment eu lieu, et que cette part maudite, il faut l'assumer. Et que si la petite fille que j'appelle Rita Ojab, parce que c'est l'anagramme de rabat-joie, si elle avait voulu faire un procès, moi j'avoue que j'étais prêt à assumer ça. Alors j'imagine que chez Flammarion, on m'aurait dit tu fermes ta gueule, on va plaider la liberté d'expression. Mais moi, personnellement, il y a une part maudite et il faut l'assumer en tant que telle. On ne peut pas s'asseoir là-dessus. En même temps, je ne suis pas complètement débile et donc je me suis un peu renseigné sur ce que j'avais le droit ou non de faire. Et ce qui... assemblé au début un vrai obstacle, un vrai problème. C'est-à-dire, mais comment je vais faire pour raconter parce que moi, c'est la réalité qui m'intéresse. Donc, j'ai inventé cette agence de détectives, la Bimor et Investigation, avec effectivement un détective en chef. Donc, JB Baltimore, j'en vais pas se cacher. Donc, le mec, soixantaine, blanc, hétéro. Bon, on sait ce qu'on en pense aujourd'hui. Et il a une assistante, parce que tous les détectives... Alors moi, j'ai lu beaucoup de romans policiers dans ma jeunesse, mais pas que. Et donc, c'était entre Nestor Burma, Lemmy Cochon, Colombo, toutes les figures de détectives ou d'enquêteurs se sont imposées à moi pour fabriquer ce personnage. Et évidemment, il a une assistante qui s'appelle Penny, et qui, elle, est une jeune fille, bien de notre époque, bien de notre temps, avec une conscience extrêmement aiguë de l'écologie, du genre, des questions de genre, etc.
Donc, ce qui crée des... woke et post-MeToo, quoi. C'est ça.
Ouais.
Voilà. Donc, le contraire de lui.
Et c'est moi aussi, Penny.
Et c'est vous aussi.
Et oui. Penny, on dirait pas moi. Comme ça, mais quand même, si. Voilà.
Penny, c'est moi.
Oui, Penny, c'est moi, oui. Ouais.
C'est un livre, en fait, qui mène l'enquête à travers ses doubles, mais tout simplement. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il n'y a que la littérature qui peut mener l'enquête, une enquête de ce style-là sur une affaire de ce style-là?
Alors, d'abord, ce qui était intéressant, et c'était que Penny et Bimor sont des personnages totalement inventés, mais eux n'inventent rien. C'est-à-dire, tout ce qu'ils trouvent concernant Marcel Pichon est absolument avéré, vrai, il n'y a aucune falsification ou accommodement littéraire et tout ça. Tout ce qu'ils trouvent, voilà, et j'aime beaucoup cette formule, c'est-à-dire que la vérité avérée, en tous les cas des faits, se déploie à l'intérieur d'un cadre fictionnel, et en même temps, la fiction, pour une fois, est au service de la vérité. Je trouvais que j'avais été assez bon sur ce coup-là. C'est-à-dire, dans la problématique fiction, réalité, non-fiction, vérité, liberté et tout ça, je trouvais que là, pour une fois, les deux arrivaient à avancer de concert et voilà, c'était assez chouette.
Au service de la vérité ou du réel, la fiction ?
J'imagine que la vérité est une des composantes de la réalité. Bon, le réel, on va dire le réel, ce sera moins compliqué. Je voulais que je m'allonge. on va glisser doucement là sur cette petite lacune de ma part et pour revenir. Et alors sur est-ce que la littérature est ça, hein, j'ai mémorisé, est la seule à me pouvoir mener l'enquête. Alors peut-être que là c'est le moment de parler de comment la presse a parlé de.
Et c'est là qu'on y arrive, mais ça c'est mon job. Donc là, tout de suite, je vais lancer le sujet.
Voilà, et je répondrai après à la question.
Voilà, merci. Voilà. Il y aura question si j'arrive à la placer. Donc on écoute Noël Mamère.
Pardon.
On écoute d'abord, surprise. Un petit peu d'effet de. Donc là, on est sur le site de Grégoire Bouillet.
Météo, pour vos retours, c'est pas du tout le grand beau temps. Prévision complète tout à l'heure avec Laurent Moussier. Bonjour à tous. Dans son quartier, le 18e arrondissement de Paris, on l'appelait la petite dame aux cheveux gris. Marcel Pichon vivait seul dans son studio au milieu d'un immeuble de 7 étages. Elle avait 64 ans, elle vivait certainement dans le souvenir de l'époque heureuse où elle avait été mannequin chez Jacques Fatt, le célèbre couturier. La petite dame aux cheveux gris était abandonnée de tous et ne supportait plus cette vie de chien. Elle décida alors de se laisser mourir en écrivant jour par jour son agonie. Ses dernières notes datent du 6 novembre 84, date probable de sa mort. Et pendant 10 mois, oui je vous dis bien, pendant 10 mois, personne ne s'apercevra de cette disparition. Après 10 mois d'indifférence, on a retrouvé hier matin le corps momifié de Marcel Pichon. Françoise Champé et Frédéric Astoux.
Alors, je cite Noël Mamère, il n'y a pas que lui. Et alors, donc je dis en intégralité ce qu'il vient de vous dire, ce que je serais incapable d'imiter. La petite dame aux cheveux gris. Dans le quartier, on l'appelait la petite dame aux cheveux gris. Non mais sans déconner. Alors que tout le monde parle d'une grande dame brune. Ce que confirment les images montrant Marcel Pichon peu avant sa mort, notamment dans le documentaire d'Anne Gaillard, dont Noël Mamère a forcément eu connaissance, puisque le reportage qui suit en diffuse des extraits. Il en sait quoi, le Mamère, si Marcel vivait certainement dans le souvenir de l'époque heureuse où il avait été mannequin? De quoi est-il certainement certain? Que sait-il d'une vie de chien? Elle ressemble à quoi, sa vie de journaliste? S'il le ridicule tuait, ce ne serait pas plus mal. Donc, il n'y a pas que Mamère, il y a Bill Allian. Et puis il y a Bellemare, donc je suis désolé pour les fans de Bellemare, mais enfin c'est quand même... Voilà, et ça répond à la question, c'est-à-dire qu'il y a un récit... Non ? Mais si, la question du départ.
Il y avait une question ?
Oui, la littérature est-elle, peut-elle raconter une enquête ?
Celle-là ?
Oui, celle-là. Eh bien, on voit très bien que les médias, par exemple... ne livre pas une information sans un récit qui va avec, sans une morale, en fait. Et c'est ça le message. Le message, et là on voit bien, il invente quand même la petite dame aux cheveux gris. C'est assez vertigineux. Enfin, on parle quand même du journal télévisé, que nous regardons tous plus ou moins. Voilà. Et ils font tout ça. Donc tous les médias, en fait, ont créé une espèce de fiction pour raconter que le pathétisme de Marcel Pichon, de l'histoire et du fait divers de Marcel Pichon, c'est un drame de la solitude, en fait. Et ce n'est que ça. À tel point que il y a des journaux qui ont titré « L'indifférence a tué ». Ben, voilà, en fait, Marcel a été assassiné par l'indifférence, c'est-à-dire la vôtre, principalement, la mienne aussi, mais quand même. Donc, pas celle de Noël Mamère, par exemple. Lui, non. Ou Bill Allian, les indifférences et tout le monde sauf lui. Quoi,
non, mais là, voilà. Vous faites du mauvais esprit quand même un peu.
Non, c'est eux qui font du très mauvais esprit, qui nous font du mal, je crois.
C'est vrai ?
Ouais, c'est mon sentiment très profond.
La dernière phrase, parce qu'on va entendre ou pas la fin du sujet ? Non, on l'entend pas.
Non.
On arrête là.
Oui.
D'accord, donc la suite, c'est quand même qu'on est avec les gendarmes ou je sais plus, au poste de police, qui effectivement recueillent des témoignages et nous racontent l'histoire de cette petite dame aux cheveux gris dans le prisme de la solitude des personnes âgées, hein, abandonnées. Et la dernière phrase est effectivement une sorte de morale qui vient conclure le conte ou la fable et qui dit la meilleure chose à faire pour éviter ça, c'est occupez-vous de vos voisins. La police ne peut pas faire mieux. C'est vous, c'est nous, la société tout entière, collectivement, qui devons faire attention à nos proches, à nos voisins, etc.
Donc, il y a toujours cette petite morale qui est injectée. Voilà, soyez bien, soyez des gens bien, s'il vous plaît. C'est pas très grave. En fait, le fait divers, je pense que les médias s'intéressent aux faits divers parce que ce qui les intéresse, eux, c'est le fait de société. Ce qui les intéresse dans le fait divers, c'est le fait de société. C'est le fait que Marcel devienne le symbole de quelque chose, de la solitude dans les grandes villes, de l'indifférence généralisée, etc. Or, la littérature, ce qui va intéresser la littérature dans le fait divers, c'est évidemment le fait humain. Et donc, moi, tout ce que j'ai essayé de faire, c'est de contester ce récit, qui a sa part de vérité, bien évidemment. Hein. Enfin, on a retrouvé son cadavre 10 mois plus tard, il y a effectivement. Sauf que Marcel a tenu. Enfin, à un moment donné, il y a une voisine qui est venue la voir parce qu'il y avait du courrier devant sa porte et Marcel l'a envoyé chier, quoi, en lui disant mais laissez-moi la paix, laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix, etc. Donc il y a une volonté. Et en fait, c'est toute la question, c'est d'essayer de savoir d'où venait ce choix de Marcel qui n'a rien à voir avec notre indifférence à nous. Il y a un choix voulu, il y a une volonté de mourir et c'était restituer ce choix à cette personne qui s'appelait Marcel Pichon.
C'est quand même un livre ou son histoire qui tord les boyaux. Ce n'est pas une histoire heureuse, on est d'accord là-dessus. Et le plus dramatique, c'est peut-être que tout ça lui est quand même arrivé, que tout ça n'est pas le fruit de votre imagination à vous, Grégoire Bouillet. Est-ce que vous auriez pu imaginer une histoire pareille ? Est-ce que la réalité, finalement, dépasse toujours la fiction ? Est-ce que ce qui vous intéresse, c'est d'aller creuser derrière ces histoires réelles et là, d'y mettre votre imagination ? Vous voyez, vous auriez pu inventer un truc pareil ?
Mais ça m'aurait moins captivé. Moi, vraiment, tous mes livres s'occupent de choses qui se sont produites dans la réalité. Parce que, je ne suis pas le premier à le dire, mais je trouve que la réalité a une imagination au-delà de toutes les imaginations qui la composent. Enfin, ce qui se passe, quand même, pour de vrai, c'est hallucinant. Enfin, tu vois, là, on est... Voilà. Et surtout, il y a quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup dans la fiction, et sur un plan littéraire, hein, sur un plan d'écrivain, c'est que la réalité n'a pas de morale. Des gens bien vont mourir dans un accident de voiture. Voilà, ils étaient bien, ils n'ont rien demandé à personne, et la réalité arrive, et bon, ils sont fauchés, toute la famille est fauchée. Il n'y a pas de morale. Les gentils ne terminent pas bien, alors que quand vous êtes un romancier, que vous écrivez une fiction, tous vos choix ressortent de votre idée de la littérature et deux, de la morale aussi. C'est-à-dire, est-ce que l'histoire d'amour à la fin du livre se termine bien ou elle se termine mal ? C'est un choix. Et le choix, même si elle se termine mal, ça va être un choix moral aussi, avec sa propre morale. Dans la réalité, moi, je suis pour rien si Marcel s'est laissé mourir de faim. Donc je suis complètement désengagé de la morale de l'histoire de Marcel Pichon. Et ce que j'ai envie de dire aussi, toute l'enquête du livre a consisté à non pas à essayer de comprendre la mort de Marcel Pichon, mais à élucider sa vie. C'est-à-dire que l'erreur serait de croire que la mort de Marcel contient toute son existence, alors que pour moi, c'est le contraire. C'est son existence qui permet éventuellement d'élucider sa mort. Donc le livre s'intéresse à la vie de Marcel Pichon depuis, ses origines dans le Berry, son mariage en 40, en pleine occupation, en octobre 40. Qui se marie en octobre 40 à Paris ? Mystère. Enfin, voilà, donc j'ai creusé tout ça. Donc c'est la vie de Marcel Pichon. Donc c'est pour ça que le livre est plus tourné vers la vie de quelqu'un plutôt que sa mort, parce que sa mort est juste la dernière marche de son existence.
Alors justement, comment vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Parce que Marcel Pichon, elle n'est pas née à l'heure d'Internet. Elle a sûrement laissé beaucoup moins de traces que nous en laisserons tous aujourd'hui en 2023. Elle n'était pas une personnalité célèbre, elle était même plutôt une inconnue, en tout cas à ces années post-mannequinat. Et là encore, ce n'était pas la période de la pipolisation des mannequins et de la mode. Hein. Il faut se rappeler ce que c'était quand même la vie d'une mannequin dans ces années-là. Ça ne gagnait pas ce qu'une mannequin peut gagner aujourd'hui. Donc comment vous avez enquêté ?
Moins qu'une postière, je crois. J'ai retrouvé.
Moins qu'une postière. C'était des boulots, enfin bref.
Et pas de sécurité sociale, pas de mutuelle et tout ça.
Et c'était l'exploitation du corps des femmes aussi dans cette dans
ouais,
ces années-là.
De leur fait. Être tout court aussi.
Ouais. Comment vous arrivez à en faire un livre de 900 pages de cette personne anonyme ?
D'abord, ça m'a enchanté, ça. Alors,
qu'est-ce que vous trouvez plan... pour nourrir votre enquête ? Qu'est-ce que vous allez trouver vraiment de décisif pour nourrir votre enquête ?
Alors, effectivement, il n'y a rien sur Marcel Pichon. Sa mort est spectaculaire, mais sa vie est complètement anonyme. C'est-à-dire, en fait, c'est une vie minuscule au sens de Pierre Michon. Enfin, voilà. Donc, il n'y a rien. Et Penny, à un moment donné, d'ailleurs, proteste et désespère un peu putain, mais on n'a rien, comment est-ce qu'on va faire ? Alors, si, on a trouvé quand même un certain nombre de choses. Et finalement, on va trouver des choses. Mais en s'appuyant sur... par exemple, Penny, elle râle en disant « Mais Génada... » Bon, tout le monde connaît Génada. Génada, lui, il n'est pas con, quoi. Quand il se lance dans l'enquête de Pauline Dubuisson, il sait qu'il a des rayons entiers de bibliothèque. Il a toutes les minutes des procès. Il a les témoins, les témoignages, les trucs, etc. Il a une matière incroyable. Et nous, on n'avait rien. Et Penny désespère. Et Bimor, quand même, il en va de la survie de l'agence. Il dit, non, mais vous avez tort, Penny. C'est pas que nous n'avons rien, nous avons nous et tout ce que nous sommes. Super phrase. Et ce tout ce que nous sommes, alors là, moi, petite digression, mais comme ça, vous comprenez comment marche le livre aussi. Hein. Pendant quand même des siècles, quand l'homme se posait des questions, c'était Dieu qui avait la réponse. Enfin, Dieu était la réponse. Alors, bah, ce qui était super commode pour maintenir les gens dans une espèce de servitude et d'ignorance, mais pas très satisfaisant sur un plan intellectuel. Et puis, incroyable, d'audacieux philosophes ont débarqué au siècle des Lumières, notamment Diderot et d'Alembert, et pour refonder l'arbre du savoir à partir de trois facultés exclusivement humaines. C'est-à-dire, que devient le savoir quand on vire Dieu de l'équation ? Et moi, ça m'a enchanté de découvrir ça. Et Diderot et d'Alembert disent, en fait, on peut arriver à savoir quelque chose à partir de trois facultés humaines, et juste ces trois-là, ça suffit. La première, c'est la raison. Alors, la raison, tout le monde a... Ouais, en fait, la raison, c'est le lien de causalité. C'est ce qui fait que n'importe quelle chose, par exemple, cet objet, imaginons qu'on ne sait pas ce que c'est. En fait, cet objet, il a été produit. Il vient de quelque part. Et si vous remontez toute la chaîne de production de cette chose, vous pouvez arriver à comprendre ce que c'est. La deuxième faculté humaine, si je suis trop long, tu me dis. C'est la mémoire. La mémoire, c'est le lien analogique. C'est-à-dire, cette chose-là, ça me rappelle un truc que j'ai vu ailleurs, dans un autre temps ou dans un autre espace. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais au moins, Et il y a une troisième faculté, et c'est l'imagination. Voilà. Et donc, en fait, pour répondre à votre question, toute l'enquête s'est faite à partir d'un rapport déductif et de raisonnement, à partir du peu d'éléments qu'on avait, mais on en avait quand même. De la mémoire, ça faisait penser à certaines choses, etc. Et puis de l'imagination. Voilà.
Avec des moments de découragement qu'on imagine, il y a dû en avoir, parce qu'on espère.
Oui, mais il ne valait rien comparativement au moment de joie.
De chercher.
Oui, parce qu'en fait, plus qu'une enquête, c'est un livre de chercheur d'or. Pour moi, c'est un livre de... Enfin, j'ai renoué avec le Club des Cinq et le Trésor de Lille. Quoi. Enfin, on était vraiment comme ça. Et je vous jure que le jour où j'ai retrouvé la tombe de Marcel Pichon, et c'est pas de la tarte, hein, pas retrouver quelqu'un dont tout le monde s'est fichu. On a vraiment... Je dis « on » parce que c'est Bimor, Penny et moi. Donc, on a vraiment galéré. Le jour, on l'a trouvé, mais vraiment, j'ai eu envie de courir tout nu dans le cimetière, tellement c'est au cimetière de Bagneux. C'était incroyable. Et la réalité, elle est tellement fantastique. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la chance aussi. Voilà. Et la découverte de cette tombe sur laquelle il n'y a pas le nom de Marcel, il n'y a que le nom de son père. En sortant, je ne vais pas vous raconter, vous lirez peut-être, mais il y a le marbrier et c'est comme ça que j'ai découvert.
Ce roman, c'est une histoire de cœur qui tient, de cœur qui ne cède pas et d'un cœur que vous, l'écrivain, vous voulez mettre à nu. Alors, vous l'avez raconté, il y a cette phrase que vous entendez, cet extrait dans cette émission de radio sur France Culture, dans les nuits magnétiques, malgré le supplice qu'elle va faire vivre à son corps, cette privation, le cœur, eh bien le cœur tient, elle l'écrira avec sa plume aussi dans son journal. Le jeûne, c'est la mort la plus horrible qui soit. Mais alors pourquoi elle va s'infliger ça? Et c'est un des mystères que vous allez essayer de comprendre. Parmi les pépites retrouvées, il y a ce journal en intégralité?
Alors, en 85, quand le corps de Marcel a été découvert, que la police, alors les flics, ils ont appelé leurs copains journalistes de France Soir et de Paris Match. Les types sont arrivés, ils ont volé 3 photos et ils ont déchiré une page du journal d'agonie. Geste assez sacrilège, moi, vraiment. Mais en même temps, je suis assez content parce que du coup, ça a paru dans la presse. Et donc, le livre n'existerait pas s'il n'y avait pas eu ce geste sacrilège des journalistes qui ont fait ça. Et moi, j'ai donné... Alors, évidemment, je retrouve, je ne vais pas tout vendre quand même dans le livre, mais on a fini par retrouver le journal d'agonie. Et j'ai donné ma parole de ne pas en dire plus.
De ne pas dire où vous l'avez trouvé,
ah, si.
Qui vous l'a donné.
C'est quoi de ne pas en dire plus de quoi. Mais il s'est passé un événement qui fait que d'un seul coup, ce n'était plus le journal. Mais ça, je ne peux pas en dire plus parce que c'est la fin du livre. Non, je suis désolé... je peux en dire plus là.
Divan?
Non. Le divan, non. Là, je peux vraiment pas en dire plus. C'est là. Le livre, à un moment donné. Alors, ok, je vais prendre un autre billet. Il y a des gens qui m'ont dit, non, mais cette enquête, elle est infinie, parce que, en fait, mais nous tous, enfin, si quelqu'un se mettait à enquêter sur nous, on est infini. On a beau être minuscule, une vie minuscule au sein de Pierre Michon. En fait, on a une vie, quoi. Et elle est passionnante, cette vie-là, même si elle n'est pas connue, ne serait-ce que sur un plan d'intériorité. Enfin, on vit énormément de choses tout au long de notre vie. Et par exemple, ça a conduit... donc, comme on avait tellement rien, on est allé voir... donc, c'est Penny, évidemment, quelle idée, parce que... on pourrait aller voir un astrologue, on pourrait aller voir un graphologue, puisqu'on avait une page du journal de Marcel. On pourrait aller voir un astrologue... un graphologue et faire l'analyse et avoir accès un petit peu à l'intériorité. Et donc, on est allé voir un astrologue, une voyante, etc., etc. Mais là, on va montrer peut-être la page. Voilà. Donc, voilà. Il y a cette page-là qui est parue dans la presse et dans Paris Match, en tous les cas, qui l'a reproduite in extenso. Donc, vous voyez là, c'est
avec
un escargot
fameuse,
qui dégorge dans du sel. Voilà.
Phrase. C'est épouvantable. L'eau n'est pas tolérable. La langue, c'est un escargot qui dégorge dans du sel. Le cœur ne cède pas. La lucidité est entière. La nuit, l'estomac se contracte. Donc ça, c'est un extrait.
Au-dessus, il y a des trucs pas mal aussi. Hein, que la malédiction soit sur ce monde pourri. Moi, j'aime bien cette phrase.
Elle y raconte donc le calvaire, en fait, qu'elle est en train de s'infliger, de s'auto-infliger avec ce choix qu'elle a réellement fait de se laisser mourir, d'arrêter de manger, d'arrêter de boire. Ce journal de son agonie, comment vous, l'écrivain, vous le regardez, vous le considérez comme matériau? Est-ce que c'est un objet littéraire pour vous? C'est un objet de vérité?
C'est une vraie question, parce que d'emblée, je m'étais dit, si je retrouve le journal d'agonie, je demanderai à mon éditrice de le publier tel quel et moi je ferai juste une postface. Parce que je prêtais à ce journal une valeur littéraire. C'est-à-dire que c'est un document littéraire pour moi, c'est quelqu'un qui écrit en se laissant mourir de faim. Et je ne sais pas qui écrit à ce moment-là. Moi je ne connais pas d'exemples connus d'écrivains qui ont écrit leur mort en direct. Il y a des gens qui ont spéculé là-dessus. Alors, Hervé Guibert, un peu, mais en même temps ce n'est pas la même chose parce que c'est une mort qu'il ne s'est pas donné à lui-même. Et les livres de Guibert sont quand même beaucoup nourris de cette injustice et de ce scandale-là. Donc ce n'est pas exactement la même chose. Mais c'est sûrement celui qui s'en approche le plus. Je tenais absolument à lire ce journal et j'avais très envie de qu'il soit publié tel quel, quel que soit son contenu. Il se trouve qu'au fil de mes recherches, j'ai retrouvé un journal d'agonie écrit par un écrivain japonais qui s'appelle Masahiko Shimada et qui imagine un type se laissant mourir de faim et le livre est le journal d'agonie de ce type. C'est une pure fiction. pendant 66 jours. Donc on a 66 entrées, 66 jours. Et voilà, on lit le journal d'agonie inventé. Et moi, j'ai pensé à Marcel à ce moment-là, disant, mais ça va pas la tête, quoi. Non, mais moi, je me suis fait chier à crever pendant 45 jours. Et il y a un mec au Japon qui imagine ce que ça fait. Et là, ça pose des enjeux incroyables sur la littérature. C'est-à-dire que finalement, le journal d'agonie de Marcel possède quelque chose, indéniablement, que le livre de l'écrivain japonais ne possède pas. C'est indéniable. Il a une force, une puissance. Mais inversement, le livre de Masahiko Shimada possède quelque chose que le livre de Marcel, que le journal d'agonie de Marcel ne possède pas, et ça s'appelle la littérature. Pour faire, voilà, le cas typique, c'est que, en fait, quand vous lisez le journal de Marcel, vous le recevez en plein cœur parce que vous savez qu'elle est morte. Si vous supprimez cet élément de votre lecture, en fait, le journal, voilà, c'est pas très bon, quoi. Alors que le livre de Shimada, vous posez pas du tout la question de savoir s'il a bien mangé le matin avant d'écrire son journal d'agonie fictif. Et elle est là, la littérature. C'est-à-dire que vous ne posez pas la question de l'auteur. C'est le livre qui tient debout tout seul. Or, le journal de Marcel, il ne tient pas debout tout seul. On a besoin de savoir que...
Voilà. Il écrit. Ouais.
Voilà. Et moi, en tant qu'écrivain, et c'est pour ça que je pense que le journal de Marcel m'a un peu fasciné, c'est que moi, évidemment, je suis du côté de l'écrivain japonais. Je suis du côté de la littérature. Ce que je travaille, c'est la matière littéraire. Et avec... Le sous-texte social qui est au cœur même de la littérature. Enfin, je vais pas faire mon Barthes, mais voilà.
Vous comprenez pourquoi, en fait, elle a ce besoin de raconter ce qu'elle endure, cette souffrance qu'elle endure, tous ces détails, parce que c'est quand même très factuel aussi dans ce qu'elle écrit, hein, ce qu'elle n'a pas mangé, ce qu'elle ressent, etc., son poids, la courbe de poids. Est-ce que vous pensez qu'elle, peut-être qu'il y avait quand même inconsciemment l'envie de laisser une trace?
Ah oui, de toute façon, le mystère ne peut pas être épuisé. Après, moi, j'ai des théories.
Mais vous pouvez essayer d'interpréter.
Oui, oui, et à la fin, j'ai même une... Je pense une hypothèse. Que Bimor et Penny ont absolument élucidé ce qui s'était passé 183 avec Jean Piennet. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a... Voilà, et toutes les 880 pages avant ont posé un certain nombre de choses qui, à un moment donné, ont pris sens pour dire que, en fait, c'est certainement ça qui s'est passé. Alors, je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé, hein, parce que pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais ceux qui l'ont lu, ils savent. Mais le truc qui est intéressant, c'est cette précision.
Ce que vous pensez qu'il s'est passé.
Oui, bien sûr.
Oui, vous dites ce qui s'est passé. Ce que vous pensez qu'il s'est passé.
Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Non, mais OK. OK.
Poursuivez.
Je sens quelque chose dans votre question. Si vous voulez en parler, vous pouvez vous allonger une seconde. Non, non, mais moi, ça me va très bien. Parlons-en.
J'essaie déjà de trouver le... Continuez, pardon.
Oui, oui, évidemment, c'est une interprétation, c'est une lecture possible, etc. On va faire tous les guillemets qu'il faut. Mais je trouve assez convaincant, en tous les cas, ce qu'ils ont trouvé. Et cette précision, cette absence totale d'émotion, en fait, dans le journal de Marcel. C'est-à-dire cette façon incroyablement lapidaire de décrire sa propre destruction, son autodestruction, sa souffrance aussi. Enfin, je veux dire, voilà. En fait, j'ai trouvé exactement la même chose dans des comptes rendus de nazis parlant de prisonniers qu'ils assassinaient. C'est la même volonté presque fonctionnaire de rapporter la mort d'êtres humains. Et donc, il y a un rapport à l'inhumanité de Marcel qui corrobore totalement l'interprétation, qui n'est qu'une interprétation, j'en conviens, mais sur ce qui est arrivé réellement à Marcel.
Vous avez dit une fois, sur votre rapport à l'écriture, sur ce que l'écriture vous procure, Grégoire Bouillet, vous avez dit un jour, quand j'écris, je suis dans un état d'intensité de vie. Je suis persuadée que je ne pourrais pas mourir. Elle pensait peut-être comme vous, en fait.
Et ça s'est vérifié. Jusqu'à
vous,
présent.
Vous n'êtes pas mort. Elle, oui, par contre.
Non, mais, ouais. Écrire...
Mais écrire, même peut-être pour elle qui n'est pas écrivaine, est-ce que ce n'est pas un élan vital? Comme vous, vous pouvez le ressentir, évidemment, de manière dédoublée.
Mais non, mais parce qu'elle n'a pas écrit, elle a fait le compte-rendu nazi de sa propre mort. Ce n'est pas du tout... Mais il faut lire la fin du livre pour comprendre ce dont il s'agit. C'est-à-dire que... Évidemment, ce n'est pas de l'écriture au sens où moi... moi, quand j'écris, c'est un...
C'est un élan vital.
Ouais, enfin, pour moi, écrire, c'est une force de vie contre les pulsions de mort du monde. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre. Mais il y a surtout, l'idée de rentrer dans un temps et dans un espace qui... Non, alors moi je suis comme tout le monde, hein. Enfin, évidemment, j'ai les factures d'EDF qui me pourraient aller, j'ai le chien de la voisine qui est vraiment pénible, voilà, puis la bêtise, la connerie, la méchanceté, tout ça, enfin, voilà, les contingences de la vie qui font qu'on est absorbé par ces contingences. Et puis si un truc se passe et d'un seul coup je me lance dans, par exemple, cette enquête, je continue de payer mes factures d'EDF. Ne vous inquiétez pas, le chien de la voisine, mais ça n'a plus aucune espèce d'importance. C'est ça qui se passe. Je suis dans un temps et dans un espace qui n'a plus rien à voir avec le temps et l'espace de la société. Tout ça existe toujours, mais moi j'ai beaucoup mieux à faire et je pense même que je ne peux pas mourir, ce qui s'est jusqu'à présent vérifié.
D'autant qu'au moment où vous écrivez ce livre, vous n'allez pas très fort en fait. Ça ne va pas super bien. Et qu'en fait, cette enquête que vous allez mener, ce livre que vous allez écrire, alors que vous vous sentez, comment vous l'écrivez, perdu, plutôt désœuvré, un peu
désœuvré, c'est le désœuvrement.
Ronchon, quoi.
Oui, teigneux état, même, teigneux, un peu crispé, quoi.
Voilà, vous vous transformez dès lors en roquet, en enquêteur, et ça va aller beaucoup mieux. Vous allez pouvoir aller mordre le mollet de quelqu'un.
Mon sentiment, c'est que
Il n'y a pas la place
dans cette société. C'est très compliqué de trouver des endroits où on peut donner le meilleur de soi.
Et là, c'est
juste
bien.
Donner le meilleur de soi. Donner le pire de soi, ça, ok. Mais le meilleur de soi, et je pense qu'il n'y a que là où on peut donner le meilleur de soi. C'est-à-dire les meilleures choses, les meilleurs élans qui sont en nous. Enfin, cette aspiration à vivre, à être libre, à, je sais pas... À embellir le monde, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, à l'enrichir d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et je pense que l'art, ça sert à ça, et la littérature notamment. Et c'est pour ça que ça me rend heureux d'écrire, c'est que d'un seul coup, je peux donner le meilleur de moi-même.
Stop, c'est très joli ce que vous venez de dire. Okay. On s'arrête là. Salut. Et on repart dans le site que vous avez fabriqué, que vous avez conçu, où vous rapportez toutes les pièces de votre enquête. Et on va retrouver, parce que c'est un moment précieux et que le temps passe, un extrait du documentaire d'Anne Gaillard de 1984. En fait, ce que vous allez voir, c'est rien de moins que le visage et entendre la voix de Marcel Pichon. Nicolas Lafitte, on clique.
Oui, ça rassure les portiers d'hôtel, les restaurateurs.
C'est Marcel Pichon.
Tout de suite, un bijou aussi, j'ai horreur des bijoux. J'adore l'orfèvrerie d'avoir, mais je n'aime pas les bijoux, il faut en mettre un. On est sûr que je réglerai l'addition.
Pourquoi est-ce que l'Alliance rassure les portiers d'hôtel?
Eh bien parce que, mais on loue, on fait une location. Eh bien, on vous demande, alors madame, vous êtes là pour combien de temps? Votre mari va vous rejoindre bientôt?
Si vous n'aviez pas d'alliance, qu'est-ce qui se passerait?
Eh bien, je pense que, tiens, je ne sais pas, je mets, c'est la coutume. Je sais que c'est la coutume, je sais qu'on garde ma main. Je mets une alliance, c'est moi qui l'ai acheté. Vous voulez que j'ai un mari? Ben, j'ai un mari, oui, il vient me rejoindre. Bien sûr. C'est tout, c'est fini.
Des choses auxquelles on tient et...
Une femme seule après 50 ans, après
ne sont pas plus reçus dans rien.
Les autres femmes ont peur
Puisque c'était un bal de retraité, je pense que j'étais une des seules à être femme seule et je suis restée seule toute la soirée. J'étais avec des amis, bien sûr, et couple, mais je me suis sentie femme seule au milieu de 100 ou 200 personnes.
Il faut sortir.
Marcel, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que cette journée est finie?
Cette journée est finie, je vais rentrer un peu tristement. Quelqu'un pour se confier, pour partager les joies que j'en avais eues, etc., etc. Recommencer.
Tout à l'heure, vous m'avez dit l'humour, ça serait...
Ah, ça serait que quelqu'un me dise « Bonjour chérie, la journée était bonne. » Je vais raconter la journée.
Vous verriez?
J'aimerais. J'aimerais parler de moi au pluriel et à la troisième personne. Ah, elle était triste, dame, dans le train. Je ne suis pas celle-là. Je ne suis pas celle-ci, je ne suis pas cette femme. Voilà. Et je suis cette femme. J'aimerais bien jouer un rôle. Mais mon rôle, c'est le mien, malheureusement.
C'est quoi votre rôle?
Eh bien, c'est celui qui s'est déroulé, c'est nos conversations. Voilà mon rôle. Alors que si j'avais à tenir ce rôle, je dirais bonjour chérie.
Vous
aimeriez être quelqu'un d'autre que vous.
Bien sûr.
C'est pas vous qui avez rajouté la musique du mépris.
Non, c'est le documentaire qui insiste quand même très très lourdement. On entend quand même Anne Gaillard demander la phrase que vous aviez dit sur l'amour, la solitude, vous pouvez la refaire là en direct pour la caméra. Enfin, il y a des trucs comme ça. Il y a énormément de choses. Alors,
le doc s'appelle Compartiment divorcé. Ça raconte l'histoire de ces femmes qui ont plus de 50 ans et qui se retrouvent seules, qui ont assez peu de moyens pour vivre. Oui,
totalement démunies. Hein, enfin, disons-le.
Et du coup, il est diffusé en janvier 1984, donc quelques.
Huit mois avant qu'elle s'enferme rue Championnet et qu'elle se laisse mourir de faim. Voilà. Donc, c'est un document assez incroyable. C'est-à-dire que vous avez Marcel Pichon. Alors, moi, si vous voulez savoir à quoi ressemble quelqu'un qui va se tuer dans 8 mois. Bah, voilà.
8 mois après.
Un peu à tout le monde et à n'importe qui, en fait.
Et pour vous, c'est Marcel réincarné?
C'est pas qu'elle est réincarnée, c'est elle, d'un seul coup. La réalité, là, impose. C'était elle. Et ce qui était intéressant, c'était d'écouter ce qu'elle dit. Au-delà de la tristesse, du chagrin, de sa solitude, qu'on lui pousse, et puis en plus, on rajoute l'adagio du mépris de Godard et tout ça. Genre, ok. Mais elle dit des trucs très, très intéressants, très troublants. Elle n'arrête pas de s'échapper d'elle-même pour donner la parole à quelqu'un d'autre. Donc, elle arrête. Vous voulez que j'ai un mari? Ben, j'ai un mari. Voilà. Non, mais c'est la coutume. Je dois porter une alliance parce que les portiers d'hôtel. À ce moment-là, elle est deux fois divorcée. Elle vit dans un minuscule studio. Elle ne fréquente plus les palaces. Et elle porte encore une alliance. Et son argument, qui est complètement extravagant, quand on y réfléchit. C'est-à-dire, non, mais comme ça, ça rassure les portiers d'hôtel. À la fin, vous avez entendu, elle dit, mais il y a un trouble d'identité, de personnalité très profond, puisqu'elle dit, mais oui, j'aimerais parler de moi. Et elle le dit spontanément. Là, c'est pas la journaliste qui l'incite à parler de ça. Il y a un silence, et d'un seul coup, elle sort ça. J'aimerais parler de moi au pluriel et à la troisième personne. Et là, moi, c'est pour ça que j'adore la réalité, c'est que c'est pas un personnage que j'aurais pu inventer. Ce trouble-là, je ne pouvais pas l'inventer. Et c'était assez bouleversant. Mais au moment où moi je tombe sur le documentaire, c'est un peu au début, c'est après que j'ai retrouvé l'émission de radio, où j'ai entendu La langue comme un escargot, etc. Et évidemment, je pars avec un sentiment, même si je pense faire un travail. Rigoureux et d'honnêteté intellectuelle pour vraiment. Je parle avec évidemment une empathie pour cette femme, bien évidemment. Et je regarde ce documentaire et j'écris à ce moment-là peut-être que Marcel était un peu conne. Et en écrivant cette phrase, j'ai un rire qui est un rire du sacrilège. C'est-à-dire que je suis en train de casser ma propre compassion et ma propre empathie pour elle. Et je sais que je suis en train de sauver le lecteur aussi. Il ne va pas avoir une empathie obligatoire pour Marcel Pichon. Il y a une liberté. On peut considérer, il y a des gens qui n'aiment pas du tout Marcel Pichon, qui trouvent que c'est une femme détestable. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elle est morte de cette façon-là qu'elle s'est donnée à mort qu'on doit forcément s'apitoyer. Et moi, j'ai adoré écrire cette phrase-là. J'ai réfléchi, je laisse ou je ne la laisse pas, parce que c'était violent. Enfin, quand même, je viens d'écrire 70 pages mettant en scène quand même cette histoire et ce qu'elle m'a fait. Et d'un seul coup, j'ai écrit peut-être qu'elle était un peu conne. Et je sais que là, je sauve le livre, que le livre va devenir un livre et non pas un plaidoyer. Et je sais que le lecteur aussi va être sauvé de ses propres émotions. Il pourra dire je l'aimais bien ou je ne l'aimais pas bien uniquement parce qu'il y a ce. Il faut choisir ces gros mots dans un texte. Il ne faut pas les mettre n'importe où et il faut qu'ils aient un vrai sens.
Vous sauvez le livre, mais est-ce que vous la sauvez, elle?
Ce n'est pas mon but. Ce n'est pas mon but de la sauver. Mon but, c'est de comprendre.
Alors, c'est quoi? C'est la raison, justement, cette envie de compréhension qui a remplacé ce biais de compassion après ça? Pourquoi vous avez poursuivi?
Non, mais il y a un mystère. Il y a un mystère Marcel Pichon. Mais il y a un mystère Marcel Pichon. Et donc, c'est ça qui m'a tenu en haleine. Un autre cas que j'ai trouvé et que j'ai mis dans le livre, bien évidemment, parce que c'était important, c'est. Donc, je me suis intéressé. Donc, elle a 19 ans quand elle se marie en 1940 à Paris. Et je me suis intéressé à la. Je me suis dit, mais qui se marie en 40, quoi, alors que ça fait 3 mois que les Allemands occupent Paris. Enfin, voilà. Et je me suis intéressé, évidemment, un peu à la collaboration. Et, voilà. Et je trouve dans les archives Haraldsen, donc qui sont les archives de la Shoah, parmi la liste des personnes persécutées, des personnes civiles persécutées par les nazis, je trouve une Marcel Pichon. Dingue. Enfin, là, vous ne pouvez pas savoir. Trouver le nom de Marcel Pichon, né à Paris. Putain, c'est elle. Né en 1923. Marcel est né en 1921. Mince. Comment ça, mince? Ça va pas à la tête, quoi. T'es en train de trouver dommage qu'elle n'ait pas été persécutée par les nazis. C'est ça que t'es en train de faire. Pourquoi? Pour les besoins du livre? Parce que littérairement, ce serait quand même super cool qu'elle ait été. Tout le monde marcherait dans la combine. Enfin, elle serait parée de l'horreur nazie et donc on serait plus libre d'avoir le moindre sentiment par elle parce que de toute façon, elle serait la victime par définition. Et moi, je le raconte comme ça en disant « Mais c'est dingue à quel point c'est inscrit en nous, ce pathétisme-là, où on ne peut plus être libre de nos émotions parce que c'est ça. Là, il y a des bons, et là, il y a des méchants. Et là, c'était fermé le banc. Il n'y avait plus d'histoire de Marcel Pichon puisque d'un seul coup, elle aurait été persécutée par les nazis. Et là, OK, il n'y a plus d'histoire. Et donc, j'étais finalement très content, et content d'abord pour Marcel, qu'elle n'ait pas été persécutée par les nazis. Enfin, je tiens à le dire haut et fort. Mais surtout pour mon livre. Parce que d'un seul coup, je restais libre de toutes les émotions. Enfin, voilà, ça c'était super important. Et c'était un moment important. Et de le raconter, c'est-à-dire, quelle que soit l'honnêteté avec laquelle... Voilà, je ne vais pas tomber dans les ornières des sentiments consensuels, des émotions toutes faites, des trucs où on est pris en otage. Il n'y a rien qui qui me détruit plus que être pris émotionnellement en otage. Dès qu'on exige de moi une émotion, je ne la ressens pas. Voilà, je ne peux pas la ressentir. Donc, j'étais content qu'elle n'ait pas, et content pour elle aussi.
À aucun moment, vous êtes tombé amoureux d'elle?
Mais non, mais ça n'a pas lieu d'être. C'est pas ma chose. Je suis amoureux de la réalité. Voilà.
Et de l'histoire, de l'histoire.
Mais pas de la personne. Non, mais c'est très, très... Ça n'a pas été ma chose, ça n'a pas été ma porte-parole, ça n'a pas été mon désir. Enfin,
Vous n'avez pas été son Pygmalion.
Et je n'ai et pas été... Je n'ai pas essayé de l'inventer. Ouais. J'ai pas... Enfin, ouais, j'aurais pu essayer d'en faire. Ben voilà, c'est tellement facile. Enfin, moi, ça m'offusque. Enfin, vous prenez n'importe quelle héroïne du XIIIe siècle, vous en faites une féministe. Non, mais ça ne va pas à la tête au XIIIe siècle, quoi. C'est pas possible. Donc, moi, je n'ai rien injecté de moi. Marcel a été une espèce de boîte noire autour de laquelle j'ai tourné et que j'ai investigué du mieux que j'ai pu. Il y a une phrase, il y a un exergue, qui dit parce que chaque nouvelle information qu'on arrivait à obtenir sur Marcel Pichon modifiait la perception qu'on en avait. Le documentaire modifie la perception que j'avais de Marcel. J'avais une espèce d'empathie pour elle, et d'un seul coup, cette empathie a glissé vers autre chose, vers une autre espèce d'intérêt pour Marcel Pichon en l'écoutant. Et donc, il y a un exergue qui dit « C'est comme une guitare dans une peinture cubiste. » Voilà. Et pour moi, Marcel, c'est exactement ça. C'est une guitare dans une... À chaque fois qu'il y avait... Je termine juste, mais sur... Donc, elle se marie en 40, elle a 19 ans. Et j'ai fait plein d'hypothèses, et on a fait plein d'hypothèses avec Bimo et Penny. Voilà. On a rivalisé voilà. Pour découvrir, mais 6 mois plus tard, quand j'ai retrouvé les enfants de Marcel, puisqu'elle a eu 2 enfants, qu'en fait, son premier fils, il était né en décembre 40. Ah bah oui, elle avait 7 mois quand elle était enceinte, et elle était enceinte de 7 mois quand elle s'est mariée. Ah bah oui, et là, toute la perspective changeait encore. Parce qu'il y a aussi une histoire de conditions féminines. On traverse tout le XXe siècle, la condition des femmes, divorcées, sans argent. Voilà, c'est cette histoire de se marier à 19 ans parce qu'elle est enceinte. Alors, est-ce que c'était un peu contraint et forcé? Pas du tout, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on traverse comme ça énormément de choses de la condition féminine du XXe siècle.
Moi, j'avais une dernière question. Et après, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on n'a plus énormément de temps, en fait. C'était ça qu'on était en train d'essayer de régler. Vous laissez ce temps-là. Moi, je vous apporte le micro. Est-ce qu'il y a une image manquante? Il y a forcément des frustrations. Est-ce qu'il y a une image, quelque chose qui vous a manqué, en fait, qui continue à vous travailler? Une image manquante de la vie de Marcel Pichon?
Alors, j'ai un regret, oui. J'aurais adoré retrouver les registres des écoles. J'aurais adoré savoir qui était Marcel Pichon.
Comment
quand
elle était? Quel élève elle était?
6 ans. Salut. Donc, en fait, il faut le savoir, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas eu de... L'éducation nationale n'a pas mené de politique patrimoniale sur ces registres. Donc, il n'y a rien. Donc, quand l'armoire des registres des écoliers et des écolières était pleine, eh ben, on virait la registre, la rangée du haut et pour mettre les nouveaux registres. Ce qui est absolument catastrophique. Voilà. Donc, je ne saurais jamais les appréciations des professeurs, donc dans les années 25, 26, 27, 30, 32. Et pourtant, il y en a quelques-uns qui ont survécu à ce naufrage. Donc, par exemple, j'ai retrouvé une Denise Pichon. Voilà, il y a plusieurs Pichons. J'ai trouvé aussi une Geneviève Cocu. Bon, enfant molle. Ok. Une Marguerite Le Pen, enfant paresseuse. Bon, je ne me suis pas privé de m'amuser avec tout ça, mais pas. Et ça, c'est un vrai regret. Voilà.
Merci Grégoire. Vous avez une question du coup dans la salle.
C'est tout
vous.
Là.
J'en profite parce que vous êtes sur le divan. J'aurais aimé que vous nous disiez quelques mots sur ce post-it que nous on voit qui est à l'extrême droite, enfin comme moi je le regarde, et qui s'appelle Petit Bougnoul.
Vous avez lu le livre.
Yes.
Vous voulez vraiment que je parle de ça? Je sais pas, Nicolas, tu veux cliquer dessus? Tu vois, petit. Non? Oui, tiens, très très bien. Oui, allez, voilà. Celui-là. Très bien. Non, en fait, non. Que vous dire? Moi, dans tous mes livres, en fait, il y a toujours une espèce de malentendu, il n'y en a toujours que je parlais de moi. Grave erreur, je suis toujours parti de moi pour aller vers les autres, l'histoire, la littérature, le monde, tout ce que vous voulez. Donc, le point de départ, c'était moi. Et souvent dans la critique, on a... Et là, c'était la première fois où je partais de quelqu'un d'autre, d'un fait divers. Mais il se trouve que ce fait divers n'a pas arrêté de croiser ma biographie. Et par exemple, donc Marcel a vécu quasiment toute sa vie dans le 15e arrondissement de Paris, rue de Javel. Et moi, j'habite rue Blomet. Alors, quelle était la probabilité pour que cette femme née en 1921, à laquelle je pensais depuis 30 ans, ait habité toute sa vie à 100 mètres de chez moi? C'était déjà assez troublant. Alors, on invente les coïncidences, hein, c'est nous qui leur donnons un sens. Mais quand même, le berceau de la famille Pichon, c'est Baumier, en plein cœur du Berry. Et moi, j'étais envoyé, comme vous le savez, avec mon frère, quand on avait 12, 13, 14, 15, 16 ans, on était envoyé dans le Berry, chez les grands-parents maternels. Et je peux vous dire que lorsqu'on est deux pré-ados en pleine effervescence hormonale, être envoyé en vacances dans le Berry, c'est juste une punition.
On a retrouvé, si jamais, Grégoire.
Ah oui, voilà. Donc ça c'est voilà et je me suis bon non moi je suis pudique aussi hein, pas dans mes livres mais voilà et en fait je me suis vu chercher mais devenir complètement hystérique à remonter la généalogie de Marcel Pichon. Je me suis vraiment vu à un moment donné et évidemment on découvre ses propres ressorts une fois qu'on a épuisé quelque chose de son hystérie et qu'on se voit. Et je me suis dit, là, c'est au-delà de la recherche pour le livre. Là, tu as un investissement personnel, tout ça. Donc, ça m'a ramené à moi. Parce que j'ai une généalogie un petit peu lacunaire, on va le dire comme ça. Je vais la faire très bref et je ne le répéterai pas. Je suis né en 1960 à Tizi Ouzou. Mon père, comme Brigitte, le père, hein, appelé sous les drapeaux. Faire la guerre. Alors lui, pareil, hein, il était au foyer, c'est comme ça doit être marqué d'ailleurs. Il a vu beaucoup d'atrocités, mais il n'y a pas participé. Et ma mère, femme assez incroyable par ailleurs, tout juste mariée, elle traverse la France, elle traverse la Méditerranée, elle va le retrouver à Tizi Ouzou. Et là... je ne le répéterai pas. Il y avait un interne à l'hôpital de Tizi Ouzou et ils étaient jeunes et beaux, ils sentaient bon le sable chaud, ils ont fait un truc à trois et je suis né. Voilà. Qui est une espèce de secret de famille, c'est-à-dire que j'ai la peau un peu mate, ce genre de truc. Donc j'ai été accueilli et aimé comme un bouillé, sauf que je ne suis pas totalement bouillé. Voilà. Et c'est la première fois, et je posais déjà des questions comme ça dans mon tout premier livre, mais moi, ça ne m'a jamais embarrassé, je ne sais pas comment dire ça. Les gens qui cherchent leur racine, j'ai toujours l'impression qu'on dirait des végétaux. Je ne suis pas une plante verte. Je suis désolé, je ne suis pas une plante verte. Donc moi, ça ne m'a jamais troublé. Les gens, ils disaient, mais quand même, ton vrai père, là, tu n'as pas envie de le rencontrer. Je dis, à part qu'il me montre sa bite, je ne vois pas ce que je pourrais apprendre de lui. Quoi. Enfin, je ne fantasme pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, notamment à notre époque, le truc identitaire. Mais moi, pas du tout. Moi, mon pays, c'est les livres que j'écris. Voilà, c'est là où je suis. C'est pas d'où je viens. Parce que, voilà. Mais il se trouve que j'ai fait un test ADN, ce que je n'avais jamais fait, et c'était assez rigolo. Et le résultat, voilà, vous lirez dans le livre le résultat et comment mon père a réagi.
C'est l'objet du livre, c'est la littérature. Vous l'avez bien dit, peut-être pas assez. On est passé beaucoup sur Marcel Pichon, son personnage, qui devient antipathique à la fin, d'ailleurs.
Enfin, qu'on peut trouver tout à fait. Il y a des raisons pour lesquelles on peut la trouver antipathique.
Voilà. Ouais. Mais la quête, on l'a fait avec vous et on entre surtout dans l'acte d'écrire. J'espère que maintenant, vous allez écrire de nouveau.
Mais ça, il faudra qu'un truc... Il faudra qu'il se passe quelque chose. Enfin, ça, c'est pas moi qui décide. C'est la meilleure métaphore que je peux trouver, c'est comme quand on tombe amoureux. On décide pas de tomber amoureux. On peut décider de se marier, mais on décide pas de tomber amoureux. Et moi, cette histoire de Marcel Pichon, elle vient de tellement loin, je l'ai pas décidé. C'est pas moi qui me suis dit, tiens, ouais, les faits divers, ça marche assez bien, j'en écrirai un, j'en trouvais un, et puis je trouvais celui-là, et tout ça, et puis il y aura toutes les composantes. Ben non, il faut qu'il se passe quelque chose, et je sais pas si, peut-être qu'il se passera plus rien.
On le sent tout au long du livre, que c'est vraiment un grand écrivain.
Ben, merci beaucoup, je regrette pas d'être venu, hein.
Bonjour, merci. Deux choses. Est-ce que la petite fille de Marcel vous a recontacté après la publication du livre? Et la seconde, j'ai un grand fantasme qui est de faire un index de votre livre, parce que le site internet est fabuleux, mais parfois j'ai envie d'aller me replonger dans certains passages et j'ai trouvé que c'est ce qui manquait, donc je prévois un gros travail et qui est de faire un index.
Une éditrice qui doit être quelque part par là.
Et peut-être pour la publication du livre de poche, on aurait un index avec 10 000 entrées pour un mot.
J'adorerais.
C'est génial.
On fait
une résidence si vous voulez.
Non, mais c'est génial. En fait, moi, ce que je trouve très, très joyeux avec ce livre, c'est donc il y a l'adresse de la Bimor Investigation. Et donc, on peut contacter Penny et Bimor. Et je reçois à peu près 5 mails par jour depuis septembre. Et c'est Penny qui répond parce que c'est la fille, elle est la secrétaire. Donc, elle râle, évidemment. Et très souvent, elle termine par un petit PS en disant « Ne trouvez-vous pas curieux de correspondre avec un personnage de fiction ?» Voilà. Et moi, j'adore que le livre se prolonge comme ça, que ça crée des choses, quoi. Enfin, que ça bouge. C'est pas juste à l'intérieur du livre, c'est le livre se déploie aussi. Alors, pour répondre à votre question, j'étais fin septembre à une librairie à Strasbourg, Quai des Brumes. Donc, il y avait du monde et ça se passait bien. Et puis, à la fin, il y a la petite séance de dédicace et tout ça. Donc, il y avait un petit peu de monde. Voilà, c'était cool. Et puis, il y avait un type tout au bout, il tenait absolument à passer le dernier. On ne sait pas trop, quoi. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là, voilà. Et puis, il finit par arriver, il se présente. Donc, jeune gars, 25 ans, barbu. Aujourd'hui, tout le monde est barbu. Tout le monde veut de la liberté, mais tout le monde se copie, quoi. Et il se présente et il dit « Bonjour, je suis l'arrière-petit-fils de Marcel Pichon. » « Ah ok, enchanté, je me dresse et tout ça. Bonjour, comment allez-vous » Voilà, le mec très sympa. Il faisait plutôt des mangas qu'il n'avait pas lu mon bouquin. Voilà, il avait bien aimé la science. Et au bout d'un moment, je lui ai dit « Mais et votre tante ?» Parce que moi, à chaque fois que je faisais un truc à Paris, je m'attendais à ce qu'elle déboule, quoi. Enfin, j'ai entre la... Pas la peur, mais un peu la peur, parce que ça aurait été un problème quand même, c'est-à-dire qu'elle fasse un procès et puis qu'elle déboule et qu'elle fasse un... Parce que c'est un engin quand même, cette femme. C'est un peu un engin. Mais elle a beaucoup d'excuses. Elle a beaucoup d'excuses. Et il me répond à ce moment-là. Alors écoutez, elle a lu et elle a bien aimé. Comme quoi, la preuve, c'est le livre. Ça ne peut pas être des intentions d'auteur qui dit « Ah non, mais j'ai voulu faire ça », c'est le livre qui va faire la différence.
Justement, je me suis posé la question quand vous avez dit que vous avez reçu la lettre de la petite fille et que vous aviez déjà commencé à travailler sur le livre depuis un an et demi et que vous saviez que vous alliez la mettre en première page et que vous avez, ce que j'ai entendu, c'est que vous aviez trouvé une astuce littéraire pour pouvoir écrire. Et que vous avez choisi d'avoir, du coup, une agence de détective avec ces deux personnages. Du coup, quelque part, c'est cette petite fille aussi qui vous a aidé à trouver.
Mais totalement, ce qui était au départ un obstacle, s'est révélé une aubaine. C'était incroyable. Enfin, voilà, mais voilà, ça, c'était incroyable. Ça s'est révélé une aubaine, totalement une aubaine. Parce que moi, je n'avais jamais fait ça, je n'aurais jamais eu l'idée de faire des... Voilà, ce dispositif fictionnel pour me mettre un tout petit peu à l'abri, sachant que c'est la fiction qui... Tout ce qui concerne Marcel, et je le dis et je le répète, et c'est l'une des fonctions du site, hein, c'est de vérifier, regarder, tout est vrai. Les actes de naissance sont les bons, les trucs, les documentaires, les trucs. Moi, je ne veux pas que le lecteur se dise « Ah, mais alors, ouais, c'est peut-être inventé ou pas. » Enfin, c'est la liberté, évidemment, du lecteur d'imaginer que ça peut être inventé. Il y a même quelqu'un qui m'a dit « Tu reviens à votre question ?» Oui, pardon, ok. c'est en fait, peut-être que Marcel, toute cette histoire est totalement inventée. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, quoi. Il me prête vraiment des qualités vraiment fantastiques, quoi. C'est hors norme, quoi. Enfin, voilà.
Et je rejoins la dame. Hein. J'ai été happée par votre écriture pour plein de raisons. Mais au début, en fait, c'est le titre qui m'a, c'est le titre du livre qui m'a attrapée. Et au début, j'ai pas trop aimé votre écriture quand j'ai lu. En fait, c'est comme vous dites, j'avais l'impression que vous étiez là et que vous parliez et je trouvais pas de... Dans l'écriture, je trouvais pas. Et en fait, j'ai continué et petit à petit, ce que j'aimais pas, c'est devenu quelque chose que j'ai adoré, quoi. Vous avoir à côté et...
C'est encore mieux, hein. Si en plus je vous ai convaincu en cours de route, c'était pas gagné au départ. Non, j'adore, bah, vraiment. Merci beaucoup.
Wow.
Ah bah, s'il n'y a personne...
Non, c'est Nicolas qui a envoyé un message pour dire qu'il
faut arrêter. Il faut dégarpir.
Oui, c'est ça.
Donc, vous voyez pourquoi je fais 900 pages. Hein. C'est parce que les formats, c'est vraiment...
Vous avez remarqué qu'il y a quand même beaucoup de lectrices. Hein. Plus de lectrices que de lecteurs.
Non, il y a des lecteurs.
Oui, il y a des lecteurs, mais il y a plus de lectrices que de lecteurs.
Si, à chaque fois, c'est tout le temps comme ça. Il n'y a que les femmes qui lisent. Ce sont les femmes qui lisent.
Ce sont les femmes qui lisent.
Bah oui,
bon,
bien sûr.
Messieurs, passez le mot quand même. Et l'apéro, c'est à quelle heure à Marseille? À 16h? On a loupé l'apéro. Merci mille fois.
Merci
à
beaucoup.
Vous. On va
merci
aller prendre l'apéro tous ensemble. Remercier l'exceptionnel Nicolas Lafitte qui a programmé et préparé toute cette rencontre. Merci aux équipes du théâtre, au son, à la lumière. Merci, merci à tous. Merci à Olé Beaujour et merci au Théâtre de la Criée. Merci mille fois.
Le festival Olé Beaujour remercie Grégoire Bouillet ainsi qu'Olivia Gesbert qui a animé cet entretien. Merci à l'équipe du Théâtre de la Criée qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques de l'auteur sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La 8e édition du festival Olé Beaujour aura lieu du 22 au 26 mai 2024 à Marseille. Montage Arthur Jam. Voix Benoît Pacteau. Un podcast produit par Des livres comme des idées.